Belphégor, deuxième partie, de mystère en mystère. Chapitre 1, où Chantecoq apprend successivement la disparition de Jacques Bellegarde et la réapparition de Belphégor. Il était 9 heures du matin. Sur la petite terrasse attenant à sa maison et recouverte d'une véranda, Chantecoq, installé dans un confortable rocking chair, parcourait tranquillement les journaux lorsque brusquement il releva la tête. Des pas rapprochés faisaient grincer le gravier de l'allée centrale. Le détective aperçut Pierre Gautret qui se dirigeait vers lui, accompagné d'un homme d'une trentaine d'années en costume de sport et d'un garçon qui, habillé d'un vêtement rembourré de dresseur, tenait en laisse 2 magnifiques chiens danois, Pandore et Vidocq. Chantecoq, se levant, fit quelques pas vers eux. Lorsqu'il les eut rejoints, Gautret aussitôt présenta « Monsieur Carabot, directeur du chenil de la rue Saint-Honoré. » Ce dernier salua le détective, qui simplement, cordialement, lui tendit la main. Monsieur Carabot déclarait en lui montrant les 2 chiens « Si vous me l'avez demandé, monsieur Chantecoq, je vous amène Pandore et Vidocq, les 2 plus beaux numéros de mon chenil. » « Sont-ils bien dressés ?» interrogeait Chantecoq. « Vous allez voir, » fit le marchand avec un air très sûr de lui. Et tout de suite il ordonna à son employé « Détachez-les !» Le garçon obéit. M. Carabot, tout en désignant une fenêtre ouverte de la villa à ses 2 pensionnaires, qui, assis devant lui, le contemplaient de leurs yeux pétillants d'intelligence, fit simplement « Allez !» Pandore et Vidocq s'élancèrent, escaladèrent les marches de la terrasse et, franchissant le rebord de la fenêtre, disparurent en un clin d'œil à l'intérieur de la maison. « Hé là !» observait Chantecoq un peu inquiet. « J'espère bien qu'ils ne vont rien démolir chez moi. »« Soyez tranquille !» rassurait le directeur du chenil. Et prenant dans sa poche un sifflet, il en tira un son aigu et prolongé. Aussitôt, les chiens reparurent, se précipitèrent vers lui, s'en vinrent se coucher à ses pieds. « Bravo !» appuya l'écolimier, très satisfait de cette expérience. Le directeur s'approchait de son employé et lui donnait quelques ordres à voix basse. Le garçon se dirigea vers le soupirail de la cave et, tirant de sa poche une scie à métaux, il fit semblant de s'attaquer à l'un des barreaux. M. Carabot n'eut même pas besoin de prononcer une parole. Un simple coup d'œil lancé aux 2 chiens suffit pour que ceux-ci s'élançassent sur le faux cambrioleur et l'immobilisassent avec une rapidité foudroyante, l'un en lui sautant à la gorge, l'autre en l'empoignant par une jambe. Il était visible que celui-ci, sous peine d'être dévoré, ne pouvait plus faire un mouvement. De nouveau, le marchand fit entendre un coup de sifflet et instantanément, les 2 Danois lâchèrent le garçon et s'en vinrent s'étendre devant leur maître. « Bien, c'est parfait !» déclarait Chantecoq. « Je crois qu'ils feront bien mon affaire. » Et, se tournant vers Gautret qui admirait les 2 superbes bêtes, Chantecoq ordonna « Va dire à ta femme de leur préparer une bonne pâtée !» Et il réintégra son studio. Colette était en train de disposer des fleurs dans un vase de cristal qui ornait la table de travail du détective. S'avançant vers elle, Chantecoq fit tout en l'embrassant « Bonjour, ma chérie !»« Bonjour, père !» fit Colette en lui rendant son baiser. Et tout de suite, d'un ton anxieux, cette demande « Rien de nouveau ?» Le détective répliquait « Non, non, rien encore. Et toi, tu n'as pas trop rêvé à Belphégor ?»« Je n'ai jamais si bien dormi. » Tout en l'enveloppant d'un regard qui révélait sa profonde tendresse, Le détective reprit. « Alors bien vrai, hein, tu n'as pas peur. » Crânement, Colette ripostait. « Mais pourquoi aurais-je peur? N'es-tu pas toujours le plus fort ?» Une sonnerie de téléphone retentit. Le limier décrocha l'appareil et écouta. Sans doute, la communication était-elle importante, car malgré sa grande maîtrise de lui-même, il parut à la fois surpris et préoccupé. À son tour, il lança dans le cornet d'ébonite « Ah, la description que vous m'en faites, c'est évidemment le fantôme du Louvre qui vous a rendu visite la nuit dernière. » Il se tut et écouta de nouveau, puis il lança dans le cornet « Allô, je veux bien, mais à la condition formelle que la police officielle ne sera pas saisie avant que j'aie fait mon enquête. Allô, ah oui, oh, mes méthodes sont tellement différentes. Vous me comprenez, n'est-ce pas ? Très bien, parfait, entendu. Je vais venir tout de suite. Au revoir, mademoiselle. » Et tout en raccrochant l'appareil, Chandcock scanda. Oh, décidément, monsieur Belphégor a toutes les audaces. Qu'a-t-il encore fait ? Interrogeait Colette avec un accent de vive curiosité. Ben, il paraît que la nuit dernière, le fantôme du Louvre s'est introduit chez mademoiselle Simone Desroches. Ah, l'ami de monsieur Bellegarde, précisa la jeune fille en pâlissant légèrement. Sans paraître remarquer le trouble qui s'était emparé d'elle, Chantecoq poursuivait. Ben, il se serait emparé d'un paquet de lettres écrites par ce journaliste et que mademoiselle Desroches avait elle-même serré pendant l'après-midi dans un meuble dont elle avait la clé. Et comme s'il se parlait à lui-même, il scanda. « Mais pourquoi ce nouveau vol ? Oh, décidément, cette affaire devient de plus en plus troublante. »« Père, observait Colette, est-on bien sûr que ce soit le fantôme du Louvre qui ait commis ce larcin ?»« Oh, la demoiselle de compagnie de mademoiselle Desroches, qui vient de me téléphoner, m'en a fait une telle description qu'il ne peut y avoir aucun doute à ce sujet. » C'est vraiment extraordinaire, murmurait Colette, tout en s'efforçant de dissimuler la profonde émotion qui s'était emparée d'elle. Tellement extraordinaire, martelait le limier, que je vais de ce pas me rendre chez mademoiselle Desroches. Il n'avait pas achevé cette phrase que la porte s'ouvrait avec fracas. Rouge comme une tomate, le chapeau de travers, essoufflée, affolée, la bonne grosse Marie-Jeanne se précipitait dans le studio en criant « Monsieur Chandcock, mademoiselle Colette !» Et elle se laissa tomber de tout son poids dans un fauteuil qui, malgré la solidité de ses pieds en acajou massif, fit entendre une plainte inquiétante. « Mais voyons, qu'avez-vous ? » interrogeait Colette en se précipitant vers sa nouvelle cuisinière. Suffoquée, celle-ci haletait. Monsieur Jacques n'était pas chez lui, et la concierge m'a affirmé qu'il n'était pas rentré de la nuit. Que dites-vous là ? S'exclamait la fille de Chandcock, tout en dirigeant ce regard angoissé vers son père, qui fronçait légèrement ses sourcils. Madame Gautret poursuivait. Ben, je suis passé au petit Parisien. Là, on m'a dit qu'on n'avait pas revu M. Jacques depuis hier soir 8 heures. Aussi, j'ai peur qu'il y soit arrivé malheur. « Ne nous frappons pas, » déclarait Chandcock. « L'enquête que fait en ce moment Jacques Bellegarde réclame, ainsi que toutes celles de ce genre, la plus parfaite circonspection et le plus grand mystère. Il se peut fort bien qu'il ait cru utile de s'absenter. »« Père !» s'écriait Colette. « J'ai le pressentiment qu'il est arrivé quelque malheur à Monsieur Jacques. Calme-toi, mon enfant. Mais pourvu que Belphégor, qui doit le haïr férocement, ainsi que tous ceux qui s'acharnent à sa poursuite, ne l'est pas ainsi qu'il l'en menaçait lâchement assassiné. Ne te mets donc pas de pareilles idées en tête. Et le vol de ces lettres n'est-il pas extrêmement troublant ? J'en conviens. Belphégor, N'aurait-il pas dérobé cette correspondance dans le dessein de renforcer les charges qu'il cherchait à accumuler contre Bellegarde? C'est fort probable, reconnaissait Chantecoq, très impressionné par la logique de sa fille. Celle-ci continuait. Alors, une fois en possession de ces documents, Belphégor n'aurait-il pas trouvé plus prudent de s'éviter toute contradiction en supprimant le malheureux? Et qui sait si demain les journaux ne nous apprendront pas que grâce aux machinations de ce bandit, M. Jacques s'est soi-disant suicidé, avouant ainsi qu'il était le fantôme du Louvre. Oh, ma chère Colette, reprenait Chantecoq, j'ai souvent admiré ton imagination et je l'ai admirée d'autant plus que, sauf de rares exceptions, elle était toujours d'accord avec la réalité. Permets-moi cependant de te faire observer qu'aujourd'hui, elle t'entraîne à des déductions dont je suis loin de partager le pessimisme. Et avec un accent d'énergie qui se tempérait d'une expression de douce et tendre affection, le célèbre limier continua. Je t'assure que tes hypothèses ne reposent sur aucune base solide. Ah, comme je voudrais que tu eusses encore raison, laissa échapper la jeune fille. Devinant que le cœur de son enfant était pris encore plus qu'elle ne s'en doutait d'elle-même, Chantecoq reprenait. As-tu toujours confiance en moi? Plus que jamais. Eh bien, ma chérie, en toute franchise, je tiens à te déclarer que j'ai la conviction très nette, très arrêtée, que non seulement Jacques Bellegarde est vivant, mais qu'il dînera ce soir avec nous. Allez, là-dessus, je te dis au revoir, car il faut que je passe chez Mademoiselle Desroches. Promets-moi que tu ne vas pas bouger d'ici pendant mon absence. Oui, père. Chantecoq embrassa le front de sa fille, puis, se retournant vers Marie-Jeanne, il lui murmura à l'oreille, « Je vous la confie. » « Bon, monsieur, affirmait Marie-Jeanne avec une sincérité absolue, vous pouvez entièrement compter sur moi. Tant que je serai là, il n'arrivera rien, mademoiselle. » Et le détective quitta son studio. Après être demeurée quelques secondes pensive et silencieuse, Colette fit quelques pas et se laissa tomber sur un siège. Envahie de nouveau par l'inquiétude, elle courba le front et se cacha la tête entre les mains. Des larmes affluaient à ses yeux. Un douloureux sanglot gonfla sa poitrine. « Mais pourquoi ?» se demanda-t-elle. « Oui, pourquoi ai-je tant de chagrin ?» Marie-Jeanne la contempla, tout attendrie. Et s'approchant de la jeune fille, elle fit avec bonhomie. « Faut pas pleurer comme ça, mademoiselle Colette !» Et se penchant vers la charmante enfant dont on avait deviné le secret, elle ajouta simplement « Il reviendra !» Chapitre 2, première enquête. Après avoir recommandé à Gautret de monter pendant son absence une garde vigilante dans le jardin de la villa, avec les deux Danois qui, d'ailleurs, s'étaient tout de suite familiarisés avec l'ex-gardien du Louvre, Chantecoq s'était rendu immédiatement chez Simone Desroches. Il avait été reçu par Elsa Bergen et Maurice de Thouars. Celui-ci, maintenant, ne quittait guère la maison d'Auteuil. Tous deux avaient fait au roi des détectives le récit exact et détaillé des événements troublants entre tous, auxquels ils avaient assisté au cours de la nuit précédente, récit que Chantecoq avait écouté avec la plus grande attention et dont il avait soigneusement noté dans son esprit jusqu'au moindre détail. Lorsque ses interlocuteurs eurent terminé, après s'être recueillis pendant quelques secondes, il demanda « Quelle heure était-il quand vous avez vu le fantôme ?»« 23 heures, répondit nettement M. de Thouars. « Pourriez-vous me montrer le meuble qui renfermait les lettres volées ?»« Veuillez me suivre, » invitait Mademoiselle Bergen. Tous trois passèrent du grand salon dans le boudoir. M. de Thouars conduisit directement le limier vers le secrétaire qui était resté ouvert. « On n'a touché à rien, » interrogea Chantecoq. « Oh, rien. Où se trouvaient exactement les lettres ?»« Seule, répliquait la Scandinave, seule Mademoiselle Desroches pourrait le dire. » Mais encore sous le coup de l'impression terrible qui lui a causé ce mystérieux attentat, elle est très souffrante et je doute fort qu'elle soit en état de répondre. Le limier n'insista pas. Maintenant, il examinait avec attention le secrétaire, qui ne portait aucune trace d'effraction. Il est évident, concluait-il, que le voleur, qui n'a commis aucun dégât, dut se servir d'un instrument extrêmement perfectionné. À moins qu'il n'ait réussi à se procurer l'empreinte de la serrure, ce qui donnerait raison à ses premières déductions, à savoir qu'il faut chercher le coupable parmi les intimes de notre jeune poétesse. Peut-être, observait Mademoiselle Bergen, la photographie des empreintes donnerait quelques résultats. « Non, je puis vous affirmer dès à présent que non, » déclarait le célèbre limier avec force. « Je vais vous en donner la preuve. » D'après la description que vous venez de m'en faire, le bandit qui s'est introduit cette nuit ici est le même que celui que j'ai rencontré au Louvre il y a deux nuits, au pied de la statue de Belphégor dans la salle des dieux barbares. « Comment, vous l'avez vu ?» s'exclamèrent simultanément la demoiselle de compagnie et le beau Maurice. « Comme je vous vois, » répliquait Chantecoq. Et d'un ton mordant, incisif, il martela. « Et j'ai constaté qu'il portait des gants noirs, grâce auxquels il pouvait, sans risque de se trahir, manipuler les objets les plus divers. » D'où appuyait M. de Thouars la difficulté très grande de se procurer sur ce mystérieux malfaiteur d'utile renseignement. Fort malheureusement, fort heureusement, déclarait le roi des détectives, nous avons à notre disposition d'autres moyens d'investigation qui, lorsqu'on sait s'en servir. Il s'arrêta, réfléchit un moment, puis demanda à ses deux interlocuteurs « Où se trouvait exactement le fantôme lorsque vous l'avez aperçu ?»« Mais il était en train d'enjamber la fenêtre que voici, » répliquait M. de Thouars. « Qui vous a signalé sa présence ?» interrogeait le limier. La demoiselle de compagnie répondait « Le bruit qu'a fait en tombant une potiche qu'il a renversée lorsqu'il gagnait la fenêtre pour s'enfuir. »« Alors, poursuivait M. de Thouars, me suis précipité à sa poursuite. Je l'ai vu dans le jardin, s'élancer derrière un bosquet. J'ai tiré dans sa direction plusieurs coups de revolver, mais j'ai dû le manquer car il a disparu sans laisser la moindre trace. »« En êtes-vous bien sûr ?» soulignait Chantecoq. Absolument, car avec les domestiques qui étaient accourus, j'ai fouillé le jardin. Nous n'avons rien découvert, rien, absolument rien. C'est infiniment curieux, définissait Chantecoq. Se tournant vers Maurice de Thouars, le détective ajouta « Bon, ben allons visiter le jardin. » Il sortit d'un pas rapide avec Maurice de Thouars. Mademoiselle Bergen les vit se diriger tous deux vers le bosquet à l'abri duquel le fantôme semblait s'être évaporé. Ils marchaient lentement, très lentement. Chantecoq observait minutieusement le sol de l'allée. Il s'arrêta un long moment devant le buisson, y pénétra, examina attentivement la terre qui ne portait aucun vestige de pas, les branches qui ne révélaient aucune cassure, les feuilles qui ne semblaient même pas avoir été froissées. Il en tira la déduction logique que Belphégor avait dû contourner le bosquet et que, contrairement à l'avis de M. de Thouars, il ne s'y était pas dissimulé un seul instant. Bientôt, il rejoignit son guide et, sans prononcer une parole, il traversa le jardin dans toute sa largeur, et s'enfuit droit au mur qui contournait la propriété. Sa surface était absolument lisse, aucun espalier, aucun treillage n'y était fixé. Fraîchement recrépi, il ne portait aucune aspérité capable de favoriser une escalade. Les arbres qui se dressaient dans le parc en étaient trop éloignés pour que l'on puisse supposer qu'ils eussent permis, grâce à eux, d'en atteindre le faîte défendu, d'ailleurs, par une armature très serrée de débris de verre et de tessons de bouteille. Toujours silencieux, Chantecoq, que M. de Thouars suivait comme une ombre, se mit à longer le mur le long duquel courait une plate-bande fleurie et parfumée dont rien ne paraissait avoir dérangé l'harmonie. Tout à coup, il s'arrêta. Il se trouvait devant une petite porte peinte en vert sombre et dont la serrure commençait à se couvrir de taches de rouille. « Où donne-t-elle » questionna-t-il. « Dans une petite rue, » répliqua M. de Thouars, « qui s'appelle, je crois, le chemin des Lilas. » Chantecoq appuya sur le loquet, la porte résista. « Oh, elle est condamnée depuis longtemps, » déclarait son compagnon. Le détective se remit en marche. Comme il atteignait un bâtiment d'un seul étage, mais très élevé, et dont l'architecture d'une bizarrerie ultramoderne empêchait de définir à première vue la destination, il demanda d'un ton bref, « Qu'est-ce que cela ?»« L'atelier de Mademoiselle Desroches, » définit Maurice de Thouars. Chantecoq s'approcha. Son guide le devança et ouvrit la porte toute grande, invitant du geste le limier à pénétrer dans l'étrange studio. Après avoir promené autour de lui un regard inquisiteur, Chantecoq fit d'un ton subitement intéressé, « Qui sait si le fantôme n'a pas réussi à se cacher sous l'un de ces vastes bahuts ?»« C'est impossible, » affirmait M. de Thouars. « La nuit, la porte de l'atelier est toujours fermée à clé. Il n'a donc pas pu s'y réfugier. Cependant, M. Chantecoq, si vous voulez vous rendre compte, rien de plus facile. »« Oh, c'est inutile, » refusait le détective. » Et tout en esquissant un sourire indéfinissable, il articula « C'est à se demander si Belphégor n'a pas des ailes. » Puis il ajouta « Est-ce que je pourrais examiner de nouveau le secrétaire qui se trouve dans le boudoir de Mademoiselle Desroches ?»« Mais tant que vous voudrez, Monsieur Chantecoq. » Ils rentrèrent tous deux dans le salon, Mademoiselle Bergen les attendait. Chantecoq se dirigea aussitôt vers le meuble et s'emparant de sa loupe, il fixa à travers la lentille de verre son œil sur la serrure, cherchant à se rendre compte si le malfaiteur s'était servi d'une fausse clé ou d'un crochet spécial, lorsqu'un cri échappa à la Scandinave. « Simone, quelle imprudence !» Le détective se redressa et tourna la tête. Pâle, les yeux cernés, le visage douloureux, Mademoiselle Desroches, dans un déshabillé dont la sobre élégance ajoutait encore à la troublante et morbide beauté, s'avançait d'un pas hésitant en s'appuyant au bras de la femme de chambre. « Monsieur Chantecoq, fit-elle d'une voix alanguie, j'ai su que vous étiez là et j'ai tenu à vous remercier de l'empressement que vous avez mis à répondre à mon appel. » Tandis que sa demoiselle de compagnie l'aidait à prendre place sur un canapé, elle ajouta « J'ai eu peur et j'avais tant besoin d'être rassurée. » Elle s'arrêta comme pour reprendre haleine. Puis elle reprit d'une voix où par instant passaient encore des frémissements de peur. « Depuis le moment où, de la fenêtre de ma chambre, j'ai vu le bandit bondir à travers le jardin, j'ai pas cessé d'avoir cette terrible image devant les yeux. Mais maintenant que vous voilà, Monsieur Chantecoq, je me sens déjà rassuré. » Et tout en s'efforçant de sourire, elle ajouta, « Avez-vous fait quelques découvertes intéressantes? Rien de précis encore, répliqua le roi des détectives. Mais si cela ne vous fatigue pas trop, peut-être pourriez-vous me donner quelques utiles renseignements. Interrogez-moi, je vous en prie. Ce sont bien des lettres que le fantôme vous a dérobées. Parfaitement. Des lettres intimes. Des lettres intimes. Ces lettres, d'après ce que m'a téléphoné Mademoiselle Bergen, étaient bien de Jacques Bellegarde. Oui, monsieur. Je vous remercie, mademoiselle. Chantecoq se tut. Simone vivement lui prit la main. On eût dit que ses angoisses, qui s'étaient momentanément apaisées, l'assaillaient de nouveau. Et d'un ton suppliant, elle exprima: Monsieur Shortcock, ne m'abandonnez pas. Simone, je vous en prie, calmez-vous, conseillait Elsa Bergen. Nous sommes là pour vous défendre, s'écriait Monsieur de Thouars. N'ayez aucune crainte, mademoiselle, affirmait Shortcock. Je suis certain que le fantôme ne reparaîtra jamais chez vous. Mais pourtant, objectait Simone d'une voix tremblante, il retournait 2 nuits de suite au Louvre. Sans doute, expliquait le détective, parce que lors de sa première visite, il n'avait pas atteint son but. Tandis qu'ici, il a emporté ce qu'il désirait. Les lettres de Jacques, scanda la jeune femme. Et les traits bouleversés, les lèvres tremblantes, elle poursuivit. Mais voilà justement ce qui m'épouvante. Le fantôme veut certainement se servir de ces lettres contre lui pour s'en venger. Mais c'est affreux. Laissez-moi tout vous dire. Bien que de graves dissentiments qui ont eu pour conséquence une irrémédiable rupture se soient élevés entre lui et moi, j'ai aimé, j'aime encore Monsieur Bellegarde, et la pensée qu'il puisse lui arriver malheur me rend folle. Oh, Jacques Bellegarde est de taille à se défendre, répliquait le détective. Simone reprenait. Écoutez-moi, Monsieur Chantecoq, ce que j'ai à vous dire est très grave et peut jeter, qui sait, une lueur sur cette ténébreuse affaire. J'ai reçu, il y a 48 heures, un billet signé Belphégor, et le menaçant des plus terribles représailles s'il persistait à s'occuper de cette affaire du Louvre. Vous me comprenez, n'est-ce pas? Tant que ce bandit n'aura pas été découvert et arrêté, je ne vivrai pas. Depuis ce matin, j'ai fait téléphoner plusieurs fois chez Jacques et au petit Parisien. On nous a répondu qu'il n'avait reparu ni à son domicile ni au journal. Mais je tremble qu'il lui soit arrivé malheur, monsieur Chantecoq. Voulez-vous me rendre le grand service de vous informer? Eh bien, qu'il n'y ait plus entre monsieur Bellegarde et moi d'autre lien que celui d'un souvenir qui, pour moi, ne périra jamais. Soyez assez bon pour me donner de ces nouvelles. Et puis, aussi, si ce n'est pas abuser de votre bonté pour, oui, pour veiller sur lui. Chantecoq, tout en la regardant d'un air de sincère compassion, déclarait: Mademoiselle, vous pouvez d'autant mieux compter sur moi que je suis déjà en rapport avec monsieur Bellegarde et qu'il m'est infiniment sympathique. Merci, balbutia faiblement mademoiselle Desroches, fermant les paupières et laissant reposer sa tête sur l'un des coussins du canapé. Chantecoq s'inclina devant elle ainsi que devant mademoiselle Bergen. Et il allait se retirer, reconduit par Maurice de Thouars, que le désespoir de Simone semblait vivement affecté, lorsque Mademoiselle Bergen, très soucieuse, très peinée elle aussi, fit en s'approchant du célèbre détective: Monsieur Shadcock, j'aurais un mot à vous dire. Je vous en prie, mademoiselle. La Scandinave demanda: Pouvons-nous maintenant prévenir la police? Chantecoq réfléchit pendant quelques secondes. Puis il déclara gravement: Non, non, pas encore. Elsa Bergen fit un signe d'acquiescement. Puis elle articula. C'est entendu, monsieur, nous garderons le silence tant que vous le jugerez nécessaire. Les deux hommes s'éloignèrent. Dans le vestibule, monsieur de Thouars, tout en prenant congé du détective, lui demanda. Alors, monsieur Shadcock ? Nous marchons de mystère en mystère, répliqua celui-ci. Espérez-vous, quoi donc ? Démasquer ce bandit. Oh, si je l'espère ! Et le grand détective, avec l'accent d'une foi rayonnante et d'un indomptable courage, martela ces trois syllabes dans lesquelles il s'engageait tout son honneur et toute sa gloire. J'en suis sûr ! Chapitre 3. Les bonbons empoisonnés. Une demi-heure après, Shadcock avait regagné son studio et s'installait tout de suite à sa table de travail. Il ouvrit le tiroir qui renfermait les billets de Belphégor ainsi que celui de Jacques et il les étala tous les trois devant lui. Puis, s'armant de sa loupe, il recommença à examiner les documents avec une attention peut-être encore plus aiguisée que la première fois. « C'est extraordinaire !» murmura-t-il. « Plus on les étudie et plus on les compare, plus on a l'impression que certains de ces caractères ont été tracés par la même main. » « Et pourtant, mieux que personne, j'en suis sûr, Jacques Bellegarde ne peut pas être le fantôme du Louvre, puisque celui-ci par deux fois tenta de l'assassiner. Décidément, ce Belphégor dépasse en habileté tous les faussaires de ma connaissance. » Un bruit de pas léger se fit entendre dans la pièce. C'était Colette qui rejoignait son père. D'une voix presque tremblante, elle lui demanda « Père, as-tu appris quelque chose d'intéressant ?» Shadcock répondit « Les constatations que j'ai faites chez Mademoiselle Desroches n'ont fait qu'affermir ma conviction que Belphégor cherchait à rejeter sur Jacques Bellegarde la responsabilité de ses sinistres exploits. Alors, s'écria la jeune fille en pâlissant, mes pressentiments seraient fondés. Colette, reprochait le détective avec un accent de douce vérité, je ne te reconnais plus. Ressaisis-toi, ma chère enfant. Mon flair me dit que nous ne tarderons pas à avoir des nouvelles de M. Jacques Bellemare. Pourvu que Belphégor ne l'ait pas tué, comme le gardien Sabara. Oh, je donnerais bien ma tête à couper qu'il est vivant. » À peine Shadcock avait-il proféré cette phrase que des aboiements retentirent dans le jardin. Le détective se leva et s'enfuit vers la fenêtre. Un cri de joie lui échappa. « Parbleu, voici M. Bellegarde !» Colette, subitement joyeuse, s'en fut rejoindre son père. Gautret, après avoir calmé les chiens, accompagnait le reporter jusqu'à la maison. Shadcock s'en fut au-devant de lui et l'accueillit à la porte de son studio. Tous deux échangèrent une chaleureuse poignée de main. À la figure pâle, aux traits tirés, à l'expression des yeux du jeune reporter, le roi des détectives et sa fille devinèrent qu'au cours de la nuit précédente, il avait dû être mêlé à de graves événements. Et tandis qu'il le faisait pénétrer dans la pièce, il lui demanda « Que vous est-il donc arrivé ?» Bellegarde riposta tout d'une traite « J'ai tout simplement failli être assassiné. » Colette tressaillit et fut sur le point de s'écrier « Je m'en doutais. » Mais elle se contenta de pousser un profond soupir. Shadcock invita Jacques à s'asseoir et se réinstalla tranquillement devant son bureau. Colette, muette, attendit debout près du journaliste qui attaqua aussitôt. « Hier soir, j'étais au petit Parisien en train de corriger les épreuves de mon article lorsqu'un coup de téléphone me prévint que mon ami, le peintre d'Hermont, que vous connaissez certainement de réputation, était au plus mal. Jugez de ma surprise, la veille, je l'avais rencontré boulevard Montmartre et il m'avait paru en parfait état de santé. La personne qui me téléphonait, un de mes voisins, me répondit que Dermont avait été frappé dans la journée d'une congestion cérébrale et qu'il n'avait pas repris connaissance. Dans ces conditions, je n'hésitais pas à prendre le train pour Nesle-la-Vallée, où Dermont habite toute l'année dans une charmante propriété, où j'ai passé souvent avec lui en toute intimité d'excellents moments. 2 heures après, je descendais à la gare de Nesle. Quelle heure était-il ? Coupait Chanteloc. Aux 23 heures environ. Bien, continuez. Le reporter reprit. Je m'engageais sur la route obscure et bordée de grands bois touffus qui conduit à la villa de mon camarade, lorsque, au bout de 300 mètres environ, j'aperçus, arrêté sur le bord du chemin près d'un tas de cailloux, une auto à conduite intérieure et de couleur sombre. Un chauffeur, vêtu d'une salopette, le visage barré d'une noire moustache, une casquette de cycliste enfoncée sur les yeux, tout en s'éclairant à l'aide d'une lampe baladeuse, était en train d'examiner une des roues arrière de sa voiture. En entendant le bruit de mes pas, il se retourna et me cria « Vous pourriez pas me donner un petit coup de main ?» Je m'approchai. Le chauffeur s'expliqua. Je crois que c'est un roulement à billes qui est fusillé. Oh, c'est bien embêtant. » Je me penchai pour me rendre compte. Mais au même moment, je reçus sur la nuque un coup de matraque qui m'assomma littéralement et je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j'étais étendu dans l'auto qui filait dans la nuit à toute allure. À mes côtés, se tenait un personnage dont je ne pus pas très bien distinguer la figure. Je remarquai seulement qu'il était bossu et qu'il tenait à la main un revolver qui indiquait clairement qu'il était prêt à m'expédier dans l'autre monde si je manifestais le moindre signe d'existence. Je gardai mon immobilité et je refermai les paupières, que j'avais d'ailleurs à peine entr'ouvertes. Je fis bien. Ainsi que vous allez le voir. En effet, quelques minutes après, l'auto stoppa sur un pont qui traverse l'Oise. L'homme à la salopette descendit de son siège, ouvrit la portière, m'empoigna par les jambes, le bossu ne me soutint par les épaules et ils me descendirent ainsi de l'auto. Retenant mon souffle, me figeant dans une immobilité presque cadavérique, je me disais, ils vont certainement me jeter dans l'Oise. Et cela fait admirablement mon affaire, car je nage et je plonge à mes réveils. Et bien que j'éprouvasse à la base du crâne une assez forte douleur, je me sentais encore assez d'énergie et de force pour échapper à la mort par immersion à laquelle ces mystérieux gredins semblaient me destiner. Mes prévisions allaient immédiatement se réaliser. En effet, tous deux, sans la moindre hésitation de leur part et sans la moindre résistance de la mienne, me basculèrent par-dessus le parapet et je tombai dans la rivière au milieu d'un remous qui se referma sur moi. La nuit était obscure, j'en profitai pour nager entre deux eaux et me dissimuler derrière une grosse pile du pont afin de laisser voir à mes assassins que j'avais coulé à pic. Ma ruse réussit. 5 minutes après, 5 minutes qui me parurent longues comme des siècles, et pendant lesquelles le bossu et l'homme à la salopette durent rester en observation afin de s'assurer que je n'étais pas remonté à la surface, j'entendis le ronflement du moteur de leur auto qui s'éloignait dans la direction de Paris. J'étais sauvé! Je nageais alors vers la berge. Lorsque je l'atteignis, j'étais à bout de force et je m'évanouis presque aussitôt parmi les roseaux sur le bord de la rivière. Quand je revins à moi, il faisait grand jour. J'eus l'impression que je m'arrachais péniblement à la lourdeur d'un pesant sommeil. Je me redressais sur mon séant. Bien que le coup de matraque de mon adversaire eût porté à faux, Ma nuque et mon épaule droite étaient encore un peu douloureuses. Mais je compris tout de suite que ces doubles contusions étaient sans gravité. Bon, j'avais surtout froid, très froid. Enfin, je parvins à me remettre sur mes jambes, à gagner la route et à pénétrer dans une auberge, où je me fis servir un grog bien chaud que j'avalai d'un trait. Puis je me rendis chez mon ami Dermont, qui d'ailleurs ne s'était jamais si bien porté. Je ne lui fis aucune allusion au guet-apens dont j'avais été l'objet. Je lui racontai une histoire que j'inventai de toutes pièces, dont le brave garçon se contenta. Mais il voulut à toute force que j'enlevasse mes vêtements encore mouillés. Et après m'avoir frictionné avec une vigueur qui acheva de rétablir ma circulation, il me prêta des vêtements à lui et voulut à toute force me retenir à déjeuner. J'acceptai car je mourais de faim. Et après lui avoir fait promettre de garder le secret le plus absolu sur cette histoire, je pris le premier train pour Paris. Et sans même passer chez moi, je suis venu vous retrouver, car j'avais hâte de vous mettre au courant de ma mésaventure. Et le journaliste acheva. Belphégor a tenu sa promesse, car c'est lui, j'en suis sûr, qui m'a frappé. Dites plutôt qu'il a voulu vous faire assassiner, rectifiait Shancock. Alors, s'écriait Bellegarde, vous croyez que ce n'est pas lui qui m'a administré ce coup de matraque? C'est impossible. Au moment précis où vous arriviez à Nesle-la-Vallée, Belphégor s'introduisait chez Mademoiselle Desroches pour y dérober votre correspondance. C'est effarant, ponctua Bellegarde d'une voix sourde, tandis que Colette, le visage subitement attristé, regardait fixement le sol. Ce n'est pas tout, reprenait le grand limier. Et, désignant au journaliste les trois missives qui étaient encore étalées sur la table, il fit « Examinez ces lettres très attentivement, je vous prie. » Jacques se pencha, se demandant où le détective voulait en venir. Au bout d'un moment, Shancock reprenait « Vous ne trouvez pas qu'il existe certaines analogies entre votre écriture et celle de Belphégor ?» Et tout en parlant, le détective désignait du doigt au jeune reporter les lettres B et G du mot Belphégor. Jacques, très troublé, déclarait « À première vue, je ne l'avais pas remarqué, mais je dois reconnaître que comme vous, toujours, vous avez absolument raison. » Et tout en fixant le détective bien en face, il ajouta « Et vous en concluez ?» Avec un accent de conviction profonde, Shancock martela. « J'en conclus que Belphégor, après vous avoir fait assommer et jeter à l'eau par les complices, cherche à vous attribuer ses forfaits. » Le reporter s'écriait en un violent sursaut de protestation. « Mais c'est abominable !» Le plus tranquillement du monde, le roi détective scandait. « C'est parfait, au contraire !»« Parfait, mais comment cela ?» répétait Bellegarde au comble de la stupéfaction. Il dirigea son regard d'abord vers Colette, à laquelle la présence du journaliste et l'attitude si nette de son père semblaient avoir rendu toute sa confiance et toute son énergie, puis vers le roi des détectives qui le considérait, l'œil brillant de toute la lumineuse intelligence qui rayonnait en son cerveau. Shancock reprit, tout en frappant cordialement sur l'épaule du jeune homme, littéralement bouleversé. Si vous acceptez de marcher avec moi la main dans la main, je vous assure que d'ici peu nous tiendrons Belphégor et sa bande. Très impressionné par l'attitude si catégorique du grand limier, Jacques demandait : Que dois-je faire ? Brusquement, Chantecoq répliquait « Disparaître !»« Disparaître !» s'écriait Bellegarde, « mais c'est impossible, c'est... » Il s'arrêta. Colette le suppliait d'un regard anxieux d'écouter son père, qui reprenait aussitôt « Ou plutôt, fit-il, de demeurer ici, à l'insu de tous, ce qui me permettra de tendre à Belphégor un piège de ma façon, et dans lequel il ne manquera pas de tomber. » « Monsieur Chantecoq, reprenait Bellegarde, croyez que je serais très heureux et très fier d'être votre collaborateur dans cette affaire qui a ménagé et me ménagera encore au grand détective que vous êtes et au modeste journaliste que je suis, des surprises sensationnelles. Mais permettez-moi de vous dire que vous exigez de moi un sacrifice devant lequel j'ai un peu le droit d'hésiter. Et pourquoi ? Ben, vous me demandez de disparaître. Il est évident que si vous voulez attirer Belphégor dans un de ces pièges remarquables dont vous avez le secret, il est préférable qu'il me croie mort plutôt mort que vivant. Vous voyez bien ? Soutignait le grand limier. Bellegarde coupa vivement. Hélas, je n'ai plus de proches parents, je compte quelques bons amis. Ah oui, vous avez peur de les inquiéter. Mais mon Dieu, oui. Mais quand ils connaîtront la raison de votre disparition, ils seront les premiers à vous la pardonner. Peut-être. Ben, vous pouvez dire sûrement. Mais il y a aussi mon journal, je me dois à lui. Chantecoq objectait. Ne préfériez-vous pas un coup de reportage qui vous vaudra au contraire toutes les plus chaleureuses félicitations de votre directeur? Le regard tout brillant de la loyauté qui était en lui, Jacques s'écriait « Mais n'aura-t-il pas le droit de me reprocher de m'être montré trop discret avec lui ?» Chantecoq observait « Votre directeur, j'en suis sûr, ne vous en voudra nullement. Votre triomphe lui fera oublier une petite incorrection que j'affirme nécessaire, car la plus légère indiscrétion risque de tout compromettre. Et je ne réponds plus de rien si vous refusez de suivre, je n'ose pas dire mes directives, mais mon conseil. Ce que vous me demandez là est très grave, hésitait encore Bellegarde. J'ai besoin de réfléchir. Chantecoq, les sourcils légèrement froncés, regarda sa fille qui était redevenue soucieuse, lorsqu'on frappa à la porte. « Entrez !» lança le détective d'une voix brève. Marie-Jeanne apparut un paquet à la main et annonça « C'est un commissionnaire qui vient d'apporter ceci pour mademoiselle Colette. » Et elle tendit l'objet, soigneusement enveloppé dans du papier gravé, entouré d'un fil d'or, et muni de l'étiquette d'une grande maison de confiserie, à la jeune fille qui s'en emparera. Madame Gautret s'en fut aussitôt rejoindre ses fourneaux. Et Colette commença à développer le paquet. Jacques, l'air préoccupé et plongé dans les graves réflexions que lui inspirait le conseil de Chantecoq, n'avait prêté pour ainsi dire aucune attention à ce menu et banal incident de la vie quotidienne. Chantecoq, de son côté, qui souhaitait vivement de la part du reporter une réponse favorable, s'était avancé vers lui, et, désireux de vaincre ses derniers scrupules, il lui disait « Si vous y tenez absolument... je puis faire une démarche personnelle auprès de votre directeur, mais auprès de lui seul, en lui demandant instamment le secret le plus absolu. » Jacques allait répliquer. Mais le visage souriant, Colette se dirigeait vers lui. Et tout en lui présentant une belle boîte de chocolat qu'elle tenait à la main, elle s'écriait « Oh, monsieur Bellegarde, vous m'avez gâté !» Le journaliste protestait avec un accent de très réelle surprise. « Oh, non, mademoiselle, vous vous trompez. Ce n'est pas moi qui vous ai adressé ce cadeau. » « Et cette carte ?» observait la fille du détective. Et Colette tendit au reporter un fin Bristol sur lequel était gravé le nom de Jacques Bellegarde, 36 avenue d'Antin. De plus en plus éberlué, le reporter affirmait avec force « Ah, mademoiselle, je vous donne ma parole d'honneur que je ne sais plus rien dans cet envoi de bonbons. Et bien que cette carte ressemble étonnamment à celle dont je fais usage. » Chantecler, qui avait tout entendu, s'écria « Ah ça ! Mais le citoyen Belphégor aurait-il... » Il s'arrêta, s'empara de la boîte et dit simplement à Colette et à Bellegarde « Suivez-moi !» Il se dirigea vers le fond de son studio, ouvrit une petite porte et pénétra avec sa fille et le reporter dans une petite pièce bien claire qui représentait un véritable laboratoire. Sans prononcer une parole, il déposa la boîte sur une table encombrée de fioles, d'éprouvettes et de cornues, prit au hasard un bonbon, le cassa en deux et l'approcha de ses narines. « Aucune odeur suspecte, » déclara-t-il. « Pourtant, je parierais. » Il se leva, s'enfuit vers une armoire et l'ouvrit à l'aide d'une petite clé fixée à son trousseau qui ne le quittait jamais. Le meuble contenait une série de bouteilles pharmaceutiques de toute taille et dont chacune portait une étiquette précisant le liquide qu'elle contenait. Sans la moindre hésitation, le limier en saisit une, revint vers la table, remplit à moitié le contenu de sa fiole la plus petite de ses éprouvettes et y plongea les débris du bonbon qu'il venait de rompre. Jacques et Colette le regardaient en silence. Au bout de quelques instants, il saisit l'éprouvette, la plaça bien dans la lumière et la fixa tout en la tenant élevée à la hauteur de ses yeux. Peu à peu, tandis que le chocolat se désagrégeait et teintait de brun le réactif, de nombreux globules descendaient dans le fond du récipient et se transformaient en une sorte de poudre grisâtre qui, formant bientôt un véritable dépôt, se dégageait nettement des autres produits dont les morceaux du bonbon étaient composés. Nettement, Chantecoq déclarait avec un léger tremblement dans la voix « Bon, maintenant j'en suis sûr, ces bonbons sont empoisonnés. » Colette pâlit et Bellegarde s'écria « Le bandit tient sa promesse. Après moi, vous et maintenant votre fille, mais quelle lâcheté, quelle infamie !» Dissimulant l'émotion qui lui causait le nouvel attentat dirigé non seulement contre lui, mais aussi contre sa fille, Chantecler reprenait. Le gredin avait bien machiné son plan. Après s'être débarrassé de vous, il comptait bien nous supprimer, Colette et moi, et vous charger de ce nouveau crime. Mais je ne suis pas fâché de cet incident, car il nous montre que la chance est pour nous, et c'est d'excellent augure. Puis, s'adressant à Bellegarde, il lança « Eh bien, que décidez-vous ? » Le reporter, avec élan, répondit « Oui, vous avez raison, il faut que je disparaisse. »« Alors, vous restez ?»« Je reste. » Tandis que le visage de Colette se rassérénait, le limier, le journaliste, échangeait une de ses poignées de main qui sont mieux qu'une promesse, c'est-à-dire un de ces pactes d'alliance et d'association qui font les grandes forces que rien ne peut briser.